Interview.
1 dialogue aussi avec lui, garde en tête qu'il raconte des trucs que tu comprends ou pas. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il te raconte lui? Et qu'est-ce que tu lui racontes mais qui passe pas par les mots? Le jour où ça me fera plus rien, quand j'ai un oiseau qui va mourir, j'arrêterai le métier en fait. J'arrêterai tout. Et j'ai ce truc-là en tête depuis toujours en fait.
On croirait avoir des choses irréelles dans leurs mains, dans nos mains. On ne croit pas que c'est vrai.
Rencontre de l'écologie, toujours avec un interview. Et pour aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cécile Verstraeten. Bonjour.
Bonjour.
Cécile, vous êtes présente pendant ces rencontres et notamment pour présenter un film qui a été projeté jeudi à 20h30 au cinéma Le Pistel qui s'intitule « Des poussières d'étoiles ». C'est un film documentaire, je crois.
C'est ça.
Et avant tout, des poussières d'étoiles, on connaît un peu cette expression démocratisée par Hubert Reeves, notamment.
Tout à fait.
Mais c'est aussi un discours des scientifiques, des astronomes, des astrophysiciens. Poussières d'étoiles, pourquoi ce titre ?
Alors, j'ai choisi ce titre parce que j'avais, au-delà du fait que c'est un film sur les relations entre les humains et les oiseaux, j'avais envie de raconter qu'on est effectivement tous des vivants au même titre, c'est-à-dire qu'on est des animaux comme les autres. C'était un peu une envie de nous remettre, nous humains, qui nous prenons quand même un petit peu trop au sérieux, un peu au-dessus des autres surtout, nous remettre sur un pied d'égalité avec les autres êtres vivants. Il y avait un peu de ça aussi derrière cette histoire qui donc se centre surtout autour des relations humains-oiseaux, mais qui voudrait aller plus loin, j'espère.
Ces oiseaux ont une grande part dans ce film et avec ce contact avec des humains qui cohabitent, qui se côtoient également donc en prison, à l'hôpital ou sur scène. Vous nous préciserez un petit peu ces propositions. Avant tout, vous avez une passion pour les oiseaux, je crois bien.
Eh bien, au départ, pas spécialement, en fait. C'est pas que je ne m'intéressais pas aux oiseaux, mais j'y connaissais rien. J'ai grandi quand même dans la campagne, dans la Drôme, et donc avec une attention quand même avec ce qui m'entourait, mais j'avais pas particulièrement de connaissances et d'intérêt particulier pour les oiseaux. C'est vraiment venu lors d'une rencontre, en fait. Le film est né d'une rencontre sur un tournage d'une fiction. Et moi, j'étais l'assistant du réalisateur. Et comme comédien, il y avait une corneille et qui était accompagnée par un humain qui était là pour lui faire faire ce qu'il y avait à faire pour le réalisateur. Et voilà, en fait, j'ai fait un repas en face de l'éducateur d'oiseaux et on a eu le temps de discuter. Et là, il m'a expliqué qu'avec ses oiseaux, donc il n'a pas qu'une corneille, il a beaucoup d'oiseaux différents, il fait de la médiation animale en prison, en hôpital psychiatrique, voilà, dans différents lieux. Et le fait que l'idée que les humains soient mis en lien avec des oiseaux puisse être bénéfique, en fait, faire du bien à des gens, ça m'a interpellée parce que la médiation animale, c'était une évidence pour moi que c'était possible avec des mammifères, parce qu'on se sent plus proche, nous, déjà, des mammifères. Avec des oiseaux, ça me semblait assez improbable et surtout potentiellement très poétique. Donc je me suis dit que là, il y avait un film intéressant à faire et donc j'ai appris un peu mieux à connaître les oiseaux grâce à Tristan, qui est donc l'éducateur des oiseaux qu'on suit dans tout le film.
Vous êtes avant tout documentariste et vous produisez depuis la fin des années 90. Vous avez peut-être un peu moins d'une dizaine de films à
oui,
votre actif.
Oui, c'est ça. En fait, Des poussières d'étoiles, c'est vraiment mon premier long métrage documentaire. Avant ça, j'ai fait une grosse pause un peu forcée pendant plus de 10 ans parce que la vie a fait que je ne pouvais plus faire de films. Mais avant ça, j'ai fait plusieurs documentaires, 2 courts métrages de fiction. Il y a Cyclo qu'on trouve sur Internet qui est en ligne. Voilà, j'ai co-réalisé un documentaire avec ma sœur aussi, Alice Verstraten, qui vit à Die, qui a les éditions Les Colamboles d'ailleurs, une maison d'édition. Et on a co-réalisé un film en Argentine sur Victor, un rescapé de la dictature. Voilà, donc j'ai souvent fait des films qui finalement traitaient de questions de société ou de métiers artistiques. Ça m'est arrivé aussi beaucoup de filmer les autres formes d'art. J'aime beaucoup ces deux aspects-là.
Comment exprimer ce lien entre dans ce film? Comment est-il établi entre les oiseaux?
Alors ça, c'est effectivement grâce à Tristan, encore une fois, qui a une façon d'aborder la question. Enfin, pour reprendre depuis le début de Tristan, finalement, parce que ça vient pas mal depuis qu'il est enfant, il a passé beaucoup de temps dans les forêts et déjà à ce moment-là, il s'est rendu compte, il a pris conscience qu'il était autant observé qu'observateur. Donc c'est parti de là pour lui et c'est ce qu'il a encore aujourd'hui, c'est quand il nous transmet des choses à propos de ces oiseaux, il nous transmet beaucoup cette idée-là, c'est qu'on est, eux aussi nous observent, eux aussi ont des émotions. Il nous permet finalement de décoder des comportements ou des choses chez eux qui font qu'on se sent plus proche, alors que c'est typiquement un animal duquel on se sent très éloigné et qui d'habitude nous fuit d'ailleurs. Donc il y a tout dans le film, il y a tout ce que Tristan nous explique qui nous aide à décoder. C'est pas un film très explicatif, parce que j'aime bien que ça reste poétique, mais quand même il nous donne des pistes. Quand il transmet à des gens dans le film, il transmet à des jeunes filles, à des détenus, voilà, il donne des informations au fil du film, mais par touche. Et je voulais qu'on ressente le reste par les images et les sons. Et en fait, j'espère que le spectateur comprend un peu mieux le jet qui est dans le film, la corneille qui est dans le film, la cigogne qui est dans le film, qu'il les, petit à petit, les considère comme des individus, tout comme en général on s'identifie à l'humain, quoi. Que j'espère que le spectateur s'identifie un peu à l'oiseau aussi.
Est-ce qu'il existe en quelque sorte une sociologie des oiseaux?
Des personnes donc qui travailleraient sur
dans l'observation, est-ce qu'on peut observer une certaine manière de vivre des oiseaux selon les espèces?
Oui, bien sûr, selon les espèces.
Leurs habitudes.
Oui, oui, clairement, ils ont des comportements. Évidemment, selon les espèces, c'est très très différent. Les corneilles entre, je sais pas, des corneilles et des canaries, il y a quand même beaucoup de différences. Qu'on perçoit pas forcément si on ne les connaît pas beaucoup. Mais alors là, ce serait bien que vous ayez une interview de Tristan, parce que moi, je risque de vous dire beaucoup de bêtises, puisqu'effectivement, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses, à observer autrement. Mais je reste plus la réalisatrice du film que l'éducatrice d'oiseaux. Donc même si maintenant, je le remplace quand il n'est pas là, il me donne toutes ses consignes, il me guide beaucoup. Mais voilà, je n'ai pas autant de connaissances que lui. Mais effectivement, c'est impressionnant, leur capacité à être en société entre eux, à construire des relations, à être en deuil s'il y en a un qui décède. On voit des changements de comportement, c'est évident. C'est pas, on pourrait se dire, on interprète, nous, humains, que ça peut être de l'anthropomorphisme, mais clairement, on voit bien qu'il y a des comportements qui changent selon les événements. Notamment, je pense au deuil, voilà. Mais c'est vrai que si tout à coup, il y a un pigeon qui perd son compagnon ou sa compagne, eh ben, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est flagrant.
Vous disiez que nous étions autant observés par les oiseaux que nous les observons. Et ça, dans le film, c'est... Comment est-ce que c'est transcrit ou transmis dans le discours ou peut-être par l'image?
Alors oui, il y a effectivement Tristan qui nous en parle. Et sinon, je pense que ça se ressent dans des séquences avec les oiseaux quand même. On voit comment ils observent même les nouveaux humains, par exemple. Quand ils sont dans un nouveau lieu comme un hôpital ou une prison, ils sont vite à l'aise, mais... Je pense qu'on voit quand même qu'ils observent. Après, je pense que j'ai un regard un peu biaisé, formé. Donc j'ai du mal à mettre à la place du spectateur. Mais pour l'instant, les retours que j'ai après les projections, en général, sont que les gens, se sont attachés au personnage oiseau, disent que ça fait du bien. C'est un film qui semble leur faire du bien. En tout cas, ils passent un moment en douceur, à apprendre des petites choses, mais aussi simplement à ressentir. Donc de là à dire que ça se voit dans le film, j'espère. Mais j'aurais envie de dire, allez le voir, pour me dire si effectivement, on... enfin, parce qu'on en comprend quoi.
Se relier, rêver, résister, c'est le titre de ces rencontres 2026. Quelles sont les résonances de ces trois mots dans votre travail ?
Alors, se relier, c'est assez fort, parce que dans tous mes films, ce qui m'intéresse toujours quand même, c'est les liens entre les êtres vivants. Avec les animaux, je n'avais encore jamais fait. Ils avaient toujours été figurants dans mes films, mais là, ils ont des rôles principaux. Mais j'ai quand même toujours été préoccupée par, effectivement, les relations entre les humains et la relation de l'humain à ce qui l'entoure, sa capacité à s'autodétruire, à détruire l'autre. Je ne comprends pas. Mais comme je ne comprends pas, j'ai envie de parler de ça aussi.
Et puis relier, c'est aussi du fait de produire des documentaires, les porter à la connaissance des spectateurs, du citoyen. C'est un moyen de lier aussi.
C'est vrai.
C'est une volonté, en tout cas, de le documentaire.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les moments de projection, comme ici, aux rencontres, c'est vraiment super, parce que c'est aussi là que je me rends compte que finalement c'est peut-être pas inutile de faire des films. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des tas de moments où je me sens un peu dingue dans mon coin à faire mes petits films et je me dis mais peut-être que ça fait du bien qu'à moi, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour la société. Et dans des moments comme hier soir, on se rend compte que oui, ça crée du lien, que ça fait parler de certaines choses, que les gens se rencontrent autour d'un film, que ça fait du bien visiblement pas qu'à moi. Donc ça, c'est super, effectivement. Et je reviens sur le mot rêver aussi. Je pense que c'est essentiel de rêver. Ça l'a toujours été, mais là, je pense qu'en ce moment, on en a tous vraiment besoin. Et que c'est une des issues. Il faut continuer à rêver et à faire que les rêves se... même adviennent.
Et justement, là, vous parliez de ce rapport avec les oiseaux et les gens qui seraient en prison. Des individus en prison. D'ailleurs, vous avez eu un accès au milieu carcéral pour pouvoir tourner. Et justement, ce rêve, c'est celui d'un homme qui est en lien avec un oiseau.
Mais c'est vrai que oui, je trouvais très important d'avoir accès à la prison. Ça n'a pas été forcément évident. À un moment, j'ai envisagé de faire le film que en prison, parce que je me disais que c'était un sujet en soi. Les oiseaux en prison, c'est quand même... fort, enfin, tout simplement fort, effectivement, d'amener des oiseaux auprès des détenus. Et puis surtout, après, l'oiseau, lui, il ressort avec Tristan, et les détenus, ils restent en prison. Il y a un côté fort. Et finalement, je voulais quand même pas faire un film que sur ce lieu, parce que j'avais aussi envie que le film relie justement les gens, qu'on soit tous mis à égalité, entre guillemets, dans le même film. C'est-à-dire qu'il y a des adolescentes, il y a des personnes âgées vraiment en fin de vie, il y a les détenus, mais que du coup, les détenus fassent partie de la société du film. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont quand même mis très, très à part, qui ont des grosses difficultés de réinsertion dans la société, mais ça reste des êtres humains, des êtres vivants. Et je trouvais important que finalement, les séquences en prison soient alternées avec les séquences en médiation ailleurs, en spectacle, ou les séquences du quotidien, parce que je filme aussi beaucoup le quotidien en famille, à la maison, et que du coup, voilà, ce soit un microcosme, mais qu'ils en fassent partie, quoi.
Si je résume bien, c'est aussi la rencontre de Tristan avec ses oiseaux, à l'adresse de personnes soit prisonnières ou hospitalisées. Comment s'opère cette rencontre ? Est-ce que les oiseaux sont en cage, j'imagine, peut-être ?
Ah oui, alors effectivement, ils arrivent en caisse de transport ou en cage, selon ce à quoi ils sont, eux, habitués. Parce qu'en fait, ils vivent dans des volières, des grandes volières pour qu'ils aient de l'espace. Et ils sont transportés dans des plus petites caisses ou cages. Et une fois qu'on est dans une salle, en fait, Tristan demande d'avoir accès à une salle. Comme ça, il peut les sortir. Enfin, ils sortent d'eux-mêmes, hein, d'ailleurs, il suffit d'ouvrir la porte. Ils sortent et comme ça, ils passent une heure vraiment en contact. Ils viennent sur les personnes, ils viennent manger dans les mains. Il y a parfois, avec la corneille, par exemple, il peut y avoir des jeux avec des objets. Et par exemple, si je prends l'exemple de la corneille, si elle en a marre, elle retourne dans sa caisse, elle ferme sa caisse, et c'est elle qui décide que c'est terminé la séance. Donc c'est quand même, en général, c'est eux les guides. Hein.
Et donc Tristan a établi une certaine osmose avec ses oiseaux.
Oui, c'est vrai que c'est chaque fois des individus qu'il connaît depuis toujours ou presque. C'est, en général, ils sont nés dans ces volières où il les a pris très très jeunes. Comme ça, avant la période où ils ont peur, en fait. C'est un peu comme nous, ils ont un âge, quand ils sont tout petits, où ils ont peur de rien. Et puis une fois qu'ils sont un peu plus matures, ils commencent à avoir des peurs qui se développent. Donc il vaut mieux avant ça les habituer aux humains, sans non plus. Il aime bien l'idée qu'ils vivent avec d'autres oiseaux, que ça ne devienne pas non plus des oiseaux, enfin, qui restent oiseaux, quoi, qui s'identifient eux à l'espèce à laquelle ils appartiennent, quoi.
Et puis vous parlez de scènes aussi. Quelle scène vous parlez dans ce texte ?
Oui, alors on a aussi des séquences sur scène parce qu'en fait, donc ils travaillent aussi en spectacle vivant et en cinéma, donc sur des tournages. Et le spectacle vivant, ça peut être avec des danseurs, des comédiens, ça dépend. Mais là, finalement, il fait de la médiation aussi parce qu'avant que les humains et les oiseaux soient ensemble à l'aise sur scène, il y a un travail de mise en lien à faire. Donc il faut que l'oiseau s'habitue à l'humain, que l'humain s'habitue à l'oiseau, et lui, il est là pour vraiment créer ce lien. Donc on a dans le film quelques séquences où il travaille avec une des jeunes comédiennes pour qu'elle soit à l'aise avec la corneille. Et là on voit tout ce travail de confiance que la corneille a envers Tristan aussi.
Je reviens un peu sur un aspect technique du matériel pour filmer, que ce soit une caméra ou un appareil photo. Ces appareils, vous les opérez en mode manuel ?
Oui, moi j'aime bien. Alors en fait, j'ai filmé moi-même. Là, j'ai pas eu de personne à l'image parce que d'abord, le film avait un trop petit budget pour avoir une grosse équipe. Donc c'est beaucoup moi toute seule. Et c'est des choses que j'ai déjà faites. J'aime bien tourner aussi, filmer moi-même, faire des photos aussi. Enfin, voilà, c'est un langage que j'aime beaucoup. Et qui me permet, en fait, l'avantage, effectivement, quand on tourne soi-même, c'est qu'on peut connecter directement ce qu'on a en tête et le faire, quoi. Donc on n'a pas à transmettre à quelqu'un. Et l'avantage que j'avais là aussi, c'est que finalement... Bah là, je peux vous le dire, même si ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'en fait, je vis avec Tristan. Maintenant, en fait, petit à petit, le sujet de mon film est devenu mon compagnon. Donc, mes filles sont dans le film et vivent aussi avec les oiseaux. Donc, c'est devenu un sujet hyper intimiste, un film en famille. Et du coup, le fait des fois d'être toute seule techniquement, ça m'a permis aussi de garder une intimité que la famille reste à l'aise. Dans les deux cas, les deux situations étaient intéressantes. Parfois, j'ai eu un ingénieur du son qui est venu travailler avec nous aussi. Et là où ça nous aidait à travailler, c'est que ça instaurait quelque chose dans la famille. Bon, là, on est au travail et on tourne. Parce que sinon, c'est quand même hyper difficile de filmer sa propre famille. C'est le film le plus difficile que j'ai fait, j'ai l'impression, à cause de ça. Voilà, ça a donné des choses intéressantes, je crois. Mais c'était difficile à faire.
Et je reviens un peu sur cet aspect de réglage manuel, parce que en utilisant les automatismes de ces appareils, parfois il y a des émissions d'ondes qui peuvent être perçues par l'animal, je l'ai remarqué ça, ou l'oiseau, est-ce qu'il est sensible aussi à ces émissions d'ondes qui permettent de faire la mise au point par exemple ?
Je ne sais pas, c'est possible, mais effectivement moi j'ai tout fait en manuel parce que j'avais envie de faire des choix, que ce soit net ou que ce soit flou. En plus les oiseaux bougent quand même très très vite. Donc il faut pouvoir s'adapter. Et oui, ce que je voulais dire par rapport au fait que c'est ma famille, c'était aussi pour venir au fait que du coup, ils me connaissent beaucoup, les oiseaux aussi, et c'est parce qu'ils me connaissent bien que ça m'a permis de les filmer de manière posée, proche physiquement, et tellement proche que parfois, ils viennent sur la caméra parce qu'ils me connaissent et qu'ils n'ont plus peur de moi ni de la caméra, donc ça pouvait devenir handicapant, ils n'étaient plus dans le champ. Mais c'était important, effectivement, pour moi de filmer manuellement, oui. Ouais, oui. Pour faire vraiment des choix d'image aussi, parce que l'automatique, c'est... Bon, on maîtrise pas grand-chose hein, dans ces coups-là. Ni la lumière, ni le point. Et ça, c'est important de le maîtriser.
Vous parliez donc d'un tournage plutôt dans l'intimité, familial, on peut dire. Est-ce qu'il y a cet aspect d'intimité tout au long de vos films ?
Oui, c'est vrai que j'aime bien filmer, même quand ce n'est pas des gens très très proches. En documentaire de création, quand même, ça fait partie du processus de créer un lien d'intimité quand même avec ces personnages, avec les gens qu'on rencontre. Et c'est ça qui fait la différence finalement entre le film documentaire et le reportage. C'est que comme le lien devient fort, il y a une confiance mutuelle qui s'installe et on arrive de plus en plus à creuser le sujet, à creuser les émotions, à ce que les gens nous fassent confiance, à ce qu'on ait confiance en eux. En fait, le lien qui s'établit fait qu'il y a une confiance mutuelle et c'est ça qui rend le film chouette à faire déjà, intéressant, et qui donne des chances quand même de toucher le spectateur aussi, parce qu'a priori, si on parle bien en profondeur des choses, dans l'intimité et dans la confiance, normalement, les choses passent plutôt bien auprès des spectateurs.
Avant tout, c'est aussi une approche anthropologique hein, de votre intérêt et à filmer. Donc vous êtes, vous travaillez avec d'autres personnes souvent dans la constitution, dans le scénario du film.
Alors au scénario, pas souvent, mais j'aimerais bien travailler plus souvent en duo parce que je trouve qu'on travaille quand même mieux pas tout seul. Mais après, quand c'est des sujets documentaires très intimistes, c'est pas forcément évident de coécrire, mais on peut le faire. Et ce serait bien que je le fasse plus, mais souvent aussi, il y a quand même le producteur ou la productrice avec qui on collabore, qui eux sont quand même là pour lire, relire, nous réorienter, dire peut-être ce qu'on va pas comprendre, essayer de nous aider à passer les commissions pour qui nous donnent éventuellement de l'argent. Donc il y a quand même toujours ces étapes de commission de lecture qui font que... Parce que voilà, les commissions de lecture qui donnent éventuellement de l'argent, parfois on est refusé, mais parfois on a donc des refus avec explication. Ils expliquent ce qui leur semble pas tout à fait abouti, donc ça permet de retravailler aussi en fonction. Mais non, c'est sûr que collaborer avec plus de personnes au scénario, j'aimerais bien, ouais.
Il y a aussi des expériences par rapport à la peinture ou les arts du cirque. Comment s'opère justement un film sur un sujet, notamment celui de la peinture par exemple? Vous photographiez, vous filmez des œuvres, ou alors il y a un cheminement ou une corrélation autour d'une œuvre?
C'est vrai que filmer les autres arts, j'aime bien, parce que je trouve ça pas forcément facile. Donc, d'un côté, il y a cette difficulté que j'aime bien, et d'un autre côté, c'est hyper nourrissant, puisque c'est déjà une forme d'art. Donc on a déjà soit des belles lumières, des belles couleurs, il y a déjà une superbe matière. Mais j'aime bien que ce ne soit pas que beau. Et en général, ce que j'ai fait sur la peinture, c'est notamment sur les peintures de ma mère, qui s'appelle Michèle Lepère, qui vit dans la Drôme aussi, à Vinsobres. En fait, elle fait des peintures qui parlent de drames humains. C'est de l'exode, c'est des charniers, c'est tous des sujets très difficiles, mais elle réfléchit à l'esthétique effectivement pour que ça reste regardable, sans enjoliver non plus. Enfin, c'est toute la complexité de ces sujets-là pour elle, et c'est pour ça que j'ai filmé la peinture, c'est que ça m'intéressait de filmer ça parce que très objectivement j'aime beaucoup son travail, et aussi parce qu'il nous renvoie vraiment à des choses, à des sujets très importants, malheureusement universels, intemporels. Voilà, donc il y avait aussi toute cette profondeur, c'est que je suis toujours aussi dans la recherche de faire des choses à la fois belles, poétiques, mais qui abordent des sujets importants sur le vivant.
Et puis le cirque également, ça c'est encore plus difficile à pouvoir capter le mouvement. Il y a toute une école, un éclairage à amener aussi pour trouver l'image optimale.
Oui, c'est vrai que les difficultés sont très différentes. C'est qu'autant la peinture, la difficulté, c'est de se dire combien de temps je filme quelque chose qui ne bouge pas. Est-ce que je laisse le plan 10 secondes ou une minute? Évidemment, ça ne raconte pas la même chose. Et au cirque, à l'inverse, c'est qu'effectivement, c'est un peu comme les oiseaux, ça va très très vite. Mais parfois, j'aime bien laisser le mouvement traverser le cadre. Effectivement, on n'est pas toujours obligé de suivre. Ça peut être laisser traverser. Et le prochain projet, d'ailleurs, a un lien avec le cirque. Le prochain film que je voudrais faire, c'est lié au cirque, et c'est très... ça aborderait beaucoup de sujets sociaux aussi. C'est en fait le parcours d'un homme qui est prof de cirque maintenant en France, mais qui est d'origine sénégalaise, qui est arrivé en France il y a quelques années, mais qui a surtout une enfance très très difficile, qui a été vraiment maltraité. C'était un enfant talibé, donc qui était obligé d'apprendre le Coran, mais sous la violence, quoi. C'était vraiment des grosses contraintes. Il a vécu dans les rues à Dakar. Et ce qu'il a sorti de tout ça, c'est le cirque. C'est la rencontre avec les arts du cirque dans un centre d'accueil pour enfants. Et le cirque lui a sauvé la vie, vraiment. Et il a envie d'aller loin, mais de l'ambition, si on veut, mais de l'ambition parce qu'il veut pouvoir faire en sorte que cette expérience serve et que d'autres comprennent qu'ils peuvent s'en sortir. Voilà, il a envie de défendre les droits des minorités, des enfants, des femmes. Enfin, il a vraiment plein de chouettes côtés, un parcours difficile. Et il est acrobate, il utilise encore son corps, raconte beaucoup de choses, parce que c'est un corps qui a été maltraité et qui maintenant est sous la contrainte, si on veut, mais pour créer et pour transmettre beaucoup de messages que je trouve importants. Donc voilà, je suis en tout début d'écriture, mais le cirque est revenu sur le tapis.
Ça rejoint un peu aussi ce verbe « résister ». Ça, c'est aussi un des mots de ce titre. Donc, vous êtes aussi à capter un peu cette résistance. Est-ce que les oiseaux sont résistants, d'ailleurs?
Ah, mais ils ont intérêt, là, parce qu'avec tout ce qu'on leur fait subir, ils ont intérêt à bien résister, là. Parce qu'on est quand même dans une époque où les espèces d'oiseaux disparaissent assez rapidement, dramatiquement rapidement, même. Donc, oui, ils sont résistants, heureusement pour eux, mais il y a un moment... Il va falloir qu'on soit quand même... je ne sais pas comment on peut faire, mais il faut que les humains prennent soin de la planète, quoi.
D'ailleurs, à l'issue de cette projection, il y a eu un débat avec le public. Est-ce qu'il y avait des questions qui vous ont touché ou qui vous ont étonné?
Oui, bah, c'est chaque fois super intéressant. C'est marrant parce qu'à chaque débat, c'est très différent. Chaque public est différent, en fait. La question qui m'a étonnée, c'était drôle, c'était une question sur les fiantes. Quelqu'un qui se demandait comment on gérait les fiantes. Je m'y attendais pas trop. C'était rigolo. Et sinon, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a expliqué comment les images et les sons l'avaient touchée, notamment la musique du film aussi. Et ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, il y a un compositeur pour la musique du film qui s'appelle Clovis Schneider et qui est vraiment quelqu'un qui travaille très bien. Donc je suis toujours contente quand on parle de lui parce que franchement, vraiment, il le mérite. Donc,
il,
voilà.
Il est distribué lui-même musicalement.
C'est Uncle Productions avec qui il travaille.
D'accord.
En fait, il compose beaucoup de musique de film, mais pas que. Hein.
Parce que je pourrais y mettre un extrait de musique
pour
finir l'émission.
Ouais, on entend un peu de sa musique dans la bande-annonce. Ouais. Mais il est vraiment chouette. Ouais. J'essaie de me rappeler du débat d'hier soir. Mais c'est beaucoup. En fait, souvent, les débats tournent autour des questions animalières. Donc, je réponds le mieux possible sur l'animalier, mais je ne suis pas animalière non plus. Moi, c'est vrai que voilà, il faudrait que Tristan puisse venir au débat. Il est question. C'est pas sûr du tout. Mais il est question que Festiwild le programme en présence de Tristan. Ça, ce serait super. Évidemment, ça ferait un débat. Voilà, pour l'automne. Mais c'est pas sûr du tout encore. Donc, voilà.
Il y a aussi un aspect, c'est celui du dessin sur les photographies. Vous êtes formé. Vous êtes formé à l'INSAS. Hein, on peut peut-être donner le nom de l'acronyme.
Oui. Alors, j'étais formé à l'INSAS à Bruxelles. C'est Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. Voilà. Ça fait très chic, hein. Mais voilà.
Il faut attirer au
c'est
maximum.
C'est ça. Il faut que les étudiants viennent. Non, mais c'était vraiment intéressant.
Et donc, est-ce que vous aviez aussi cet aspect du dessin dans cette formation qui vous a attiré ou découvert ou plutôt peut-être exploité si vous aviez déjà dessiné?
Alors en fait, l'INSAS m'a plutôt appris à aller vers le documentaire parce que moi j'étais plutôt partie dans l'idée de faire des films de fiction parce que c'est ce que je connaissais le mieux quand j'étais jeune. Donc l'INSAS m'a apporté le documentaire et le dessin c'est venu donc parce que ma mère est peintre, donc on a quand même beaucoup dessiné quand on était petite, ma sœur et moi. Et puis j'ai fait une année aux Beaux-Arts seulement parce que je suis partie en école de cinéma. Et là c'est assez récent quand même que l'envie revienne de dessiner parce que je suis... j'adore faire des films, mais c'est quand même une industrie, le cinéma. Et c'est des temps très très longs d'écriture, de recherche de financement avant de pouvoir commencer vraiment à tourner et à faire un film. Et donc j'ai besoin par moment, et ça m'aide à écrire, enfin tout se tient, mais ça m'aide de redessiner sur des photos par exemple. Je reprends mes photos et grâce au numérique, j'efface des parties, je redessine sur les parties effacées. Enfin, j'essaie de composer avec l'image réelle et le dessin et ça me permet d'aller plus loin. Et notamment suite au film « Des poussières d'étoiles », ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même, comme tout film, heureusement, on est frustré parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Donc on se dit, bon, je ferai un autre film, et tant mieux. Mais je me suis aussi dit, je pourrais peut-être chercher à exprimer des choses que je n'ai pas pu exprimer autrement. Et donc, comme ma sœur, Alice Verstraten, à les éditions des Colamboles, a dit, elle m'a proposé qu'on fasse un folioscope. Ce qu'on est en train, on a fini hier, d'ailleurs, et qui a été imprimé, a dit, d'ailleurs, chez Héraldi. Il est formidable d'ailleurs lui.
Un ouvrage qui sera accessible?
Oui, on l'a fini donc hier, il sera accessible sur le site des Colamboles, a dit. Puis on va voir un peu si on peut le mettre en librairie, enfin, on va chercher un peu des solutions pour pas le vendre que à la suite des projections. Et du coup je me suis amusée, mais en même temps ça m'a fait réfléchir à comment exprimer certaines choses que j'ai pas pu exprimer. Ça me fait réfléchir au film suivant où je me demande si je vais pas intégrer de l'animation en fait aussi au documentaire. Voilà, donc le passage par le dessin m'aide à réfléchir pas que dans la théorie, voilà, parce qu'en fait c'est très théorique avant de pouvoir faire un film, je trouve. C'est pas un art qu'on peut pratiquer comme de la musique ou de la peinture, où on peut quand même faire, même si on n'a pas énormément de moyens. Le fait que le cinéma soit une industrie, c'est quand même assez plombant parce qu'on a le temps sur des années de développer le projet, de faire des progrès, de préciser les choses, mais on a aussi le temps de se décourager, de se dire qu'on fera jamais le film, de plus avoir envie de le faire, parce qu'au bout d'un moment, les dossiers qu'on réécrit pour les commissions, c'est intéressant, mais il y a un moment où on tend à nous formater aussi beaucoup. Et ça, c'est un peu pénible. Donc, c'est pour ça aussi que les films se ressemblent tous de plus en plus, hein, je crois. Mais c'est vrai pour tous les supports artistiques. Voilà. Et moi, j'ai eu de la chance, d'ailleurs, sur le film « Des poussières d'étoiles », c'est que c'est TV7 qui a financé. C'est une chaîne qu'on ne connaît en général pas. C'est Bordeaux. C'est une toute petite chaîne. Enfin, toute petite, c'est pas péjoratif, hein, au contraire. Mais du coup, ils m'ont laissé une liberté totale de durée, de forme. Et, voilà. Et ça, c'est quand même assez rare d'avoir de la liberté de création, en fait, dans ce milieu. Après, la diffusion reste faible, hein, évidemment. Comme je ne suis pas dans les grands, que personne ne me connaît, que la boîte de prod est petite, voilà, on n'est pas des, on n'est pas des gros. Donc, on est difficile, c'est difficile de nous rendre visibles. Voilà.
Il y a des festivals, souvent, de courts-métrages, d'ailleurs, notamment dans Drôme, il y en a quelques-uns. On aura peut-être la chance d'en voir d'autres. La question que je me pose aussi, le documentaire, pour vous, c'est aussi le prétexte d'aller vers l'autre?
Ah oui, c'est une très bonne question. Oui, comme je suis plutôt un peu... Je suis pas forcément sûre de moi. Je suis pas sûre de moi. Donc aller vers les autres, c'est vrai qu'être caché derrière sa caméra, c'est pas mal. C'est un très bon prétexte pour rencontrer les gens, pour voir aussi des lieux, entrer dans des espaces où on n'aurait pas accès autrement. Ça, c'est super. Et je crois que je suis un peu comme Tristan avec ses oiseaux, en fait. Moi, c'est un peu la caméra qui me permet de faire le lien. Tristan, à l'origine, je pense que c'est lui. Le premier que ça a aidé, c'est lui, bien sûr. Oui, la caméra, clairement, m'aide beaucoup. Quand j'étais étudiante à l'INSAS, j'avais fait un film. J'avais envie de filmer une jeune fille qui avait une forme d'autisme, assez fort, d'ailleurs, qui ne pouvait pas vraiment parler, qui se mordait. Enfin, vraiment, c'était pas facile pour elle. Et cette caméra, ça m'a permis de l'approcher, vraiment. Et elle ne me regardait pas. Et il y a eu un moment où j'ai tourné un plan, elle dansait, et là, elle s'est mise à me regarder. Enfin, à me regarder. Elle regardait l'œil de la caméra, pas moi. Mais ça m'a impressionnée, comme ça a fait le lien entre nous, quoi. Donc, clairement, je me cache derrière. Hein. Bon, du coup, quand je suis en public, qu'il faut parler à un débat, j'y arrive, hein, je m'en sors, je crois. Mais parce que j'ai eu le film avant qui fait que les gens, ça, je sais de quoi je parle, quoi. J'ai un sujet auquel me raccrocher.
L'objet de la caméra, c'est un objet qui fait peur parfois, hein, pour la personne que vous allez filmer. Il y a une phase d'acclimatation, je dirais, avant de vraiment travailler avec la personne.
Oui, c'est vrai, c'est important de prendre ce temps. Effectivement, comme je le disais pour le documentaire de création, si on veut faire des belles choses, il faut que les gens soient plus crispés, qu'ils nous oublient, enfin ils nous oublient. Oui, qu'ils soient habitués à la présence de la caméra, c'est super important. Qu'ils aient une relation de confiance, qu'ils sachent bien. Voilà, il faut surtout bien. Moi, je leur dis toujours qu'au montage, on verra quoi. Il y a des choses, c'est pas grave. Si je tourne, même s'ils sont pas sûrs que ce soit bien que je tourne, ça peut ne pas être dans le film. J'ai pas envie de travailler contre les gens, je travaille avec eux. Donc, même pour Tristan, avant de montrer le film, il l'a vu évidemment. Je voulais être sûre qu'il n'y ait rien qui lui pose problème, parce qu'il y a des séquences, c'est pas forcément facile non plus de tout assumer. Et voilà, donc je préfère travailler en collaboration, mais c'est vrai que ça commence dès les repérages à sortir la caméra, voir comment les gens réagissent, qu'ils se fassent à la présence. Et après, l'étape suivante, c'est quand il y a quelqu'un au son, c'est que la perche et le micro au-dessus des gens, ça c'est presque plus difficile que l'image encore.
À force de tourner des documentaires, est-ce que ça a nourri aussi l'envie de pouvoir produire une fiction vous-même ?
J'aimerais bien refaire de la fiction, effectivement. Donc, deux courts-métrages de fiction, c'est un peu peu pour ce que j'aimerais arriver à faire dans cette vie. Mais donc, j'espère que je vais y arriver. J'aime bien chercher entre les deux, entre le documentaire et la fiction. Mais en général, quand je fais un documentaire, j'ai envie de faire une fiction et vice-versa, parce que je trouve qu'il y a des avantages vraiment aux deux. Et c'est vrai que dans le documentaire, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on a des moments où on se dit « Ah, j'ai raté tel moment, j'ai pas réussi à filmer ça ». Mais il y a aussi des moments qui surgissent, qui sont des cadeaux qu'on n'avait pas prévus, et on est là au bon moment, et c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Mais en fiction, ce qui est super, c'est qu'on peut écrire des choses même gênantes pour le personnage. On peut aller beaucoup plus loin. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire en documentaire, je trouve, par respect pour les personnes qu'on filme.
Cécile Verstraeten, est-ce que vous-même avez un site internet ou un blog sur lequel vous vous confiez ?
Eh bien non, même pas. Là où on trouve des choses un petit peu, je mets des petites choses pour les projections, des choses comme ça sur les réseaux sociaux comme Facebook et Insta. Et sinon, c'est sur le site Décollambol de l'édition de ma sœur où elle met plus d'infos. Elle est meilleure que moi là-dessus. Mais voilà.
Cécile Verstraeten, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps.
Avec plaisir.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.